Ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances?
Le football, il a changé.
Good morning tour.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus, il est 7h17, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. C'est toujours un plaisir de vous retrouver de bon matin pour une nouvelle émission ce vendredi 10 janvier. Au programme ce matin, les flash infos présentés par nul autre que Mathis Maudet, suivi d'une chronique société d'Angelina Richard sur la symbolique de nos vêtements. Dans la page internationale, nous vous emmenons en Asie, en Afrique et en Amérique. On n'a plus de limites. Clara Baudard nous parlera d'un sujet qui fait l'actualité sur le continent africain, puis direction les États-Unis avec Jules Frécon qui abordera les incendies à Los Angeles. On dit que les bonnes choses ont une fin, mais sur Radio Campus, ce n'est jamais fini. Martin Kretovic nous parlera ensuite de culture avec un groupe de musique rock qui lui tient à cœur. Léo Segura est allé à la rencontre de la communauté LGBT Tourangelle pour parler de leur sécurité. On passera juste après à la chronique sport d'Antoine Carré. Et pour finir en beauté, nous écouterons Alia Trabelsi et son billet d'humeur. Vous écoutez bien Good Morning Tour sur 99.5 FM. Il est 7h18. Tout de suite, les informations avec Mathis Maudet.
Un accord officialisé entre Israël et le Hamas mercredi. Après plus de 15 mois de conflit, ce nouvel accord prévoit un cessez-le-feu qui entrera en vigueur dimanche dans la bande de Gaza. D'après le Premier ministre du Qatar, partie prenante des négociations, 33 otages seront libérés par le Hamas en échange de centaines de prisonniers palestiniens détenus en Israël, a ajouté Joe Biden. Alors que le président américain, lui, cédera sa place à Donald Trump à la tête de la Maison Blanche lundi prochain. Retour en France, une motion de censure contre le gouvernement François Bayrou a été rejetée jeudi à l'Assemblée nationale. Le texte proposé par la France insoumise n'a recueilli que 131 voix contre les 228 requises. Cette motion de censure avait été déposée après le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, a regretté ce résultat en rejetant la responsabilité sur le Parti socialiste et le Front national. Il y a 50 ans, le 17 janvier 1975, était promulguée la loi Veil pour dépénaliser le recours à l'avortement en France. La ministre de la Santé s'était même déplacée en juin de la même année à Tours afin d'inaugurer le Congrès national des sages-femmes. Pour commémorer ce 50e anniversaire, des événements ont lieu partout dans le pays aujourd'hui. À cette occasion, l'Institut national de l'audiovisuel rend public 79 témoignages dans une série intitulée « Il suffit d'écouter les femmes », une récolte patrimoniale à consommer sans modération. En sport maintenant, deuxième match au mondial de handball pour l'équipe de France et autant de victoires. Emmenée par Desbonnet, Fabregas et Mine, la France a balayé 43-19 le Koweït ce jeudi lors du mondial. Cette victoire permet aux Bleus de se qualifier pour le tour principal avant même d'affronter l'Autriche samedi. Alors qu'en football, la surprise de la semaine, c'est bien l'élimination de l'Olympique Lyonnais en 32e de finale de la Coupe de France. Les Gones ont été battus au tir au but par Bourgoin, une équipe de National 3 classée 4 divisions en deçà de l'OL. C'est toute la magie de la Coupe.
Merci Mathis. Il est 7h20 sur Campus Tour. Passons maintenant à la chronique société d'Angelina Richard. Vendredi dernier, le rappeur français Riles faisait la promotion de son nouvel album dans l'émission Quotidien. Il portait un t-shirt avec une inscription pro-palestinienne en hébreu. Ce simple haut relève d'une forte signification, car oui, les vêtements sont bien plus que de simples tissus. Angelina va nous faire un plaisir de nous expliquer sa symbolique politique.
Oui, un vêtement peut être politique avec un message direct, comme avec l'artiste Riles, ou encore l'actrice Leila Bekti, qui avait elle aussi affirmé son soutien à la Palestine en portant un pin's pastèque au Festival de Cannes. Le vêtement a toujours été politique, que ce soit à travers ses messages, avec ses symboles ou à travers ses luttes. Par exemple, depuis le XVIe siècle, en particulier au sein des classes dominantes, le corset, vous savez, cet accessoire qui comprime la poitrine et la taille des femmes, se révèle en fait être une injonction à se tenir droite comme une distinction sociale, bien qu'il se développera par la suite dans d'autres classes sociales. Et il y a un vêtement de lutte féministe par excellence. Une idée sur le plateau ?
Mon jean peut-être, non ?
Ouais, le jean.
Oui, car rappelons-le, l'ordonnance de 1800 de la préfecture de police de Paris qui interdisait aux femmes de porter le pantalon n'a été abrogé qu'en 2013. Le pantalon qui était avant interdit pour les femmes et par peur d'une virilisation. Il ne faudrait pas que les femmes commencent à porter des tenues d'hommes puisqu'elles pourraient prétendre aux mêmes droits. Pourtant, elles y voyaient un moyen d'éviter les agressions sexuelles sous les jupes ou sous les robes. Puis surtout, elles voulaient s'habiller comme elles l'entendaient. Et ce n'est qu'en aux alentours de 1960 que les femmes ont commencé à porter des jeans, peu importe la loi. D'ailleurs, on peut voir que cette question est encore d'actualité quand on parle des uniformes, tailleurs pour les garçons et jupes pour les filles, comme s'il fallait absolument genrer un vêtement.
La mode est aussi marquée par le colonialisme avec l'appropriation culturelle ou encore les stéréotypes racistes.
Oui, c'est Dior en 2022 avec sa collection d'automne qui avait fait polémique. Avec sa coupe évasée et ses plis latéraux, la création est présentée sur le site officiel de la maison de haute couture comme une pièce originale. Pourtant, cette jupe mi-longue est un design assimilé à celui de la jupe dite tête de cheval, un vêtement traditionnel né sous les dynasties Song et Liao, une référence culturelle chinoise détournée et surtout niée par Dior. Entre misogynie et racisme, le port du voile est aussi régulièrement dans les débats. Puis bien sûr, la politique se trouve dans la fabrication des vêtements. Avec la fast fashion, les pays européens acceptent de recevoir des vêtements qui reposent pourtant sur l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-payée. Surtout pour que ces vêtements soient vendus à moindre coût, elle utilise des matières premières dangereuses et de très mauvaise qualité. Nocives pour notre santé, mais aussi pour la planète. Il y a entre 16 à 35% de microplastiques rejetés dans la mer et océan du monde qui proviennent des textiles. Acheter en friperie ou en ressourcerie peut alors être une solution, puisque le vêtement existe déjà. Pourtant, avant, ces vestiaires étaient destinés aux classes populaires qui n'avaient pas les moyens d'acheter dans des grandes enseignes. Maintenant, c'est devenu tendance.
Que ce soit en friperie ou en magasin, s'habiller pour certaines personnes, c'est devenu compliqué, voire impossible.
Car oui, vous l'aurez compris, le monde de la mode est dominé par des hommes blancs paternalistes. Ils nous contraint à des normes pour des femmes blanches valides faisant du 36. Les marques s'arrêtent alors souvent 42 avec des formes de vêtements que très peu adaptées aux morphologies qui diffèrent de cette norme. Et alors très peu de marques qui proposent des vêtements adaptés aux grandes tailles ou adaptés aux personnes en fauteuil par exemple.
Vous l'aurez compris, nos vêtements regorgent d'histoires politiques, sans même parfois que l'on le sache. Vous écoutez Good Morning Tour, il est 7h24, c'est l'heure de notre première pause musicale. Voici Mikwale Heidi de Pino D'Angio.
In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato, l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Ti farà girare in mondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai.
M'è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sa, lei ti farà girare
qualcosa in cambio, tu che dai?
D'écouter Mi Quali Heidi de Pino D'Angio, osez me dire que ça ne vous a pas fait bouger les épaules, il faut au moins ça pour se réveiller. Il est 7h28 et vous écoutez la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours sur Radio Campus. On ouvre maintenant notre page internationale avec quelques brèves d'actualité. En Asie, la Corée du Nord a tiré plusieurs missiles à courte portée vers la Corée du Sud. Mardi 14 janvier, des missiles balistiques auraient parcouru 250 km avant de finir leur course dans la mer du Japon, a affirmé l'armée sud-coréenne. Cet essai n'est pas anodin car il intervient à quelques jours seulement de l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche. Une provocation de la Corée du Nord à laquelle Séoul répondra plus fermement, déclare le président sud-coréen par intérim Choi Sang-mok. En Indonésie, le mont Ibu est entré en éruption. Selon l'agence géologique indonésienne, samedi 11 janvier, le volcan a craché de la lave et a projeté une colonne de fumée jusqu'à 4 km d'altitude. Les visiteurs et les villageois de l'île de Halmahera ont été invités à quitter les lieux proches du sommet. Ce n'est pas une première pour ce volcan qui fait partie des plus actifs d'Indonésie. On change maintenant de continent en direction de l'Afrique, voici quelques brèves. Au Soudan, des bombardements ont provoqué la mort de plus de 120 civils. Mardi 14 janvier, au lendemain de l'attaque, des secouristes soudanais volontaires déplorent les dégâts humains et le manque de matériel médical. Ces bombardements indiscriminés près de Khartoum surviennent alors que les combats entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide se sont intensifiés. La guerre fait rage depuis plus de 20 mois dans le pays. Lors des élections législatives au Tchad, le parti au pouvoir remporte la majorité des sièges. Cela faisait depuis 2011 qu'une telle élection n'avait pas été organisée. Samedi 11 janvier, c'est le mouvement patriotique du salut, au pouvoir depuis plus de 30 ans, qui a remporté les élections du 29 décembre dernier avec 124 des 188 sièges. L'opposition politique dénonce quant à elle une mascarade indigne en accusant des résultats préfabriqués. On passe au Moyen-Orient avec un sujet chaud qui fait la une de l'actualité, la trêve entre Israël et le Hamas, une chronique signée Clara Baudard. Il se faisait attendre et le voilà, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et Hamas a été conclu.
Après plus de 400 jours de guerre, les négociations menées par l'intermédiaire du Qatar ont pris fin. Cet accord, signé par le Hamas et Israël, entrera en vigueur dimanche, mais ses contours sont encore flous. Pour l'instant, on sait qu'il contient trois phases. La première, prévue pour durer 42 jours, devrait permettre de libérer 33 otages.
Qui seront les otages libérés pendant cette première phase initiale ?
Les otages concernés seront des femmes, des enfants, des personnes âgées et des blessés. L'accord prévoit la libération d'un otage israélien pour 30 prisonniers politiques palestiniens. Un ratio que certains jugent défavorable côté israélien. Les familles des otages israéliens ont manifesté pour exprimer leur colère. Elles dénoncent un manque d'informations. En effet, la liste diffusée par le Hamas ne précise pas si leurs proches sont vivants ou décédés. L'extrême droite israélienne s'oppose aussi à cet accord. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale du pays, a d'ailleurs déclaré sur le réseau social X avoir tout fait pour que cet accord n'aboutisse pas. Du côté des Palestiniens, cette nouvelle a apporté beaucoup de joie. Pour la première fois, certains disent entrevoir un avenir dans l'enclave palestinienne de Gaza.
Mais qu'en sera-t-il du reste des otages israéliens et des prisonniers palestiniens et de la situation à Gaza même ?
La deuxième phase sera, elle, dédiée à la libération progressive d'hommes et de soldats. Cette fois, les ratios entre échanges d'otages israéliens et les prisonniers palestiniens seront équivalents. Cette phase devra permettre une fin définitive de la guerre, d'après Joe Biden, président sortant des États-Unis. Les corps des décédés seront, eux, restitués aux familles pendant la troisième phase, qui sera également dédiée à la reconstruction de Gaza, où plus de la moitié des infrastructures ont été détruites. L'ONU estime qu'il faudra 15 ans et plus de 50 milliards d'euros pour reconstruire l'enclave. Le chantier est colossal et les besoins y sont immenses. Habitat, accès à l'eau potable, santé et alimentation.
Depuis le début du conflit, des milliers de personnes ont perdu la vie. Ce cessez-le-feu marque un pas important, mais il reste à voir s'il tiendra et permettra un retour durable de la paix. Place à l'Amérique maintenant avec deux informations qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Des restrictions américaines sur les exportations de puces spécialisées dans l'IA inquiètent l'Union européenne. Pour empêcher des pays comme la Chine d'avoir accès aux dernières innovations, le gouvernement américain a présenté lundi 13 janvier un cadre de nouvelles règles sur l'exportation des technologies d'intelligence artificielle. A l'instar de la Chine, la Commission européenne dénonce ces mesures. Les États-Unis étant aujourd'hui le premier pays en matière d'IA, souhaitent garder les innovations pour elle et ses alliés. L'Europe craint de ne plus pouvoir y bénéficier avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Blue Origin est en concurrence avec SpaceX dans la course spatiale. L'entreprise détenue par le milliardaire Jeff Bezos a envoyé en orbite jeudi 16 janvier sa nouvelle fusée New Glenn. Cette opération marque un tournant décisif. Blue Origin cherche à rattraper son retard face à son concurrent direct SpaceX, entreprise fondée par Elon Musk. Avec cette nouvelle fusée, l'ambition est claire. Entrer dans un nouveau marché, celui du lancement de satellites commerciaux et militaires en orbite, mais aussi de vaisseaux et d'astronautes. Il est 7h33, vous écoutez toujours Good Morning Tour, et il est l'heure de la chronique Amérique. Bonjour Jules.
Bonjour Julienne.
La presse française a beaucoup parlé cette semaine des incendies en Californie, et vous revenez sur ça ce matin.
Je vous emmène donc à Los Angeles, où les feux font ravage depuis le 7 janvier. Corinne Laine est l'envoyée spéciale du Monde dans la Cité des Anges, elle décrit une ville en péril. Sur la 101, qui traverse la cité d'est en ouest, écrit-elle, les automobilistes roulent à la frontière du nuage noir et du ciel bleu. Dans une des villes les plus embouteillées du globe, la reporter ajoute, la circulation a rarement été aussi fluide. Et le trafic routier n'est pas le seul impacté par les feux. Les habitants vivent au gré des évacuations potentielles. L'eau du robinet est déconseillée dans certains quartiers, peut-on encore lire dans le journal du soir. Une habitante résume bien le calvaire vécu, tout sens de la normalité a disparu.
Et pour cause, jeudi 15 janvier, 25 morts sont constatées, 88 000 personnes sont concernées par un ordre d'évacuation et plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés par les feux.
Des feux hors normes, à tel point que des pompiers canadiens et mexicains sont venus en renfort, mais aussi des détenus, c'est ce que déplore l'humanité. Dans les colonnes du journal, on peut lire que la Constitution américaine autorise le travail forcé pour les auteurs de crimes. C'est ainsi que des millions de personnes incarcérées travaillent pour quelques centimes de l'heure, rapporte Le Quotidien. Et pourquoi choisir d'être pompier ? Eh bien, c'est un emploi mieux payé que les autres, entre 5 et 10 dollars la journée.
Décidément, l'argent est au cœur de ces incendies. Les dégâts et les pertes économiques qu'ils ont causés se chiffrent à 150 milliards de dollars.
Bonne nouvelle pour les assureurs, ils avaient tout de même prévu le coup. Entre 2020 et 2022, les compagnies d'assurance ont refusé de renouveler les contrats d'un demi-million de foyers de Los Angeles. Le risque de catastrophe naturelle les a poussés à augmenter leurs prix. L'an dernier, l'assureur de Francis Bisquetti voulait monter sa cotisation de 4500 à 18 000 dollars l'année. Il a refusé. Résultat aujourd'hui, ni arbre, ni toit, rapporte Le Quotidien de l'Ouest. Monsieur Bisquetti n'est pas le seul à avoir perdu son logement. La plupart des bâtiments californiens ont les parois faites de simples panneaux de bois fixés sur des piliers. Pourquoi, s'interroge Le Parisien ? Eh bien, même si ce matériau est plus inflammable que les autres, il est plus résistant au séisme. Et la Californie y est régulièrement confrontée. Mais surtout, construire une maison en bois coûte 15 à 30% moins cher. Décidément, l'argent est au cœur de ces incendies.
Merci Jules Frécon pour cet éclairage. On clôture cette page internationale par un son que Mathis nous a proposé et qui ravira sans aucun doute Angelina et Aliyah. Voici Rupture de Ben Mazué et Yoa.
Je vais te quitter, je sais que c'était pas le projet. J'ai essayé de te parler plein de fois, mais tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas, tu t'écoutes. Toi, tu t'écoutes et t'as souvent raison parce que t'es génial. Tu t'écoutes, toi, tu t'écoutes, mais sans m'écouter, c'était sûr que ça finirait mal. C'est pas non plus que ta faute. Les torts sont partagés. J'aurais pas dû t'en m'engager. Faire ses promesses avant d'agir. Tu vas être triste parce que je te quitte. Et on est triste quand on est quitté.
quitter. C'est pas que la fin de l'histoire qui rend triste, c'est de savoir que l'on n'est plus aimé. Et j'ai pas l'air mais je suis dévasté. J'ai pas l'air mais je suis mal aussi. Mais ça fait plus d'une semaine que je le sais et que j'ai intégré que c'était fini. Qu'est-ce que j'y peux si la flamme est partie? On choisit pas d'aimer, c'est dans la chair. Toujours quand on quitte, on trahit. Mais l'amour c'est pas de l'humanitaire.
Écoutez Rupture de Ben Mazuet et Ioa. Vous êtes toujours sur Good Morning Tour. Il est 7h39, c'est l'heure du second flash info de Mathis Modé.
Un accord officialisé entre Israël et le Hamas mercredi. Après plus de 15 mois de conflit, ce nouvel accord prévoit un cessez-le-feu qui entrera en vigueur dimanche dans la bande de Gaza. D'après le Premier ministre du Qatar, partie prenante des négociations, 33 otages seront libérés par le Hamas en échange de centaines de prisonniers palestiniens détenus en Israël, a ajouté Joe Biden. Alors que le président américain, lui, cédera sa place à Donald Trump à la tête de la Maison Blanche lundi prochain. Retour en France. Une motion de censure contre le gouvernement Bayrou a été rejetée jeudi à l'Assemblée nationale. Le texte proposé par la France insoumise n'a recueilli que 131 voix contre les 228 requises. Cette motion de censure avait été déposée après le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, a regretté ce résultat en rejetant la responsabilité sur le Parti socialiste et le Front national. Il y a 50 ans, le 17 janvier 1975, était promulguée la voix... Le 17 janvier 1975 était promulguée la loi Veil pour dépénaliser le recours à l'avortement en France. La ministre de la Santé s'était même déplacée en juin de la même année à Tours afin d'inaugurer le congrès national des sages-femmes. Pour commémorer ce 50e anniversaire, des événements ont lieu partout dans le pays. À cette occasion, l'Institut national de l'audiovisuel rend public 79 témoignages dans une série intitulée « Il suffit d'écouter les femmes », une récolte patrimoniale à consommer sans modération. En sport, deuxième match au mondial de handball pour l'équipe de France et autant de victoires. Emmenée par Desbonnet, Fabregas et Mine, la France a balayé 43-19 le Koweït ce jeudi lors du mondial. Cette victoire permet aux Bleus de se qualifier pour le tour principal avant même d'affronter l'Autriche samedi. Alors qu'en football, la surprise de la semaine, c'est bien l'élimination de l'Olympique Lyonnais en 32e de finale de la Coupe de France. Les Gones ont été battus au tir au but par Bourgoin, une équipe de National 3 classée 4 divisions en deçà de l'OL. C'est ça toute la magie de la Coupe, Julian.
Merci Madis, il est 7h41. Vous êtes toujours sur 99.5 FM, il est temps de parler musique. Voici la chronique culturelle que vous attendez tous, présentée par Martin Kretovic. Lui-même passionné de rock, il va vous présenter un groupe qui lui tient toujours à cœur et qu'il écoute toujours.
Oui, aujourd'hui je vais vous parler de Rage Against the Machine, un groupe de rock rap des années 90 et dont la musique n'a jamais réellement disparu. Attention, ça peut faire mal aux oreilles aussitôt, mais je pense que vous avez déjà entendu ce titre. C'est une idée. C'était Killing in the Name. Le groupe vient de dépasser en début de semaine le milliard de streams avec ce son sur la plateforme de musique Spotify, 23 ans après sa sortie en 1992.
Pas mal pour un premier single.
Le groupe, avec un genre singulier empruntant autant au rap qu'au métal, est connu pour ses positions politiques révolutionnaires, anticapitalistes et contre le racisme que le chanteur Zach de la Rocca scande sur une grosse guitare saturée. Il est considéré comme le groupe engagé le plus célèbre des États-Unis.
Et pourquoi ce titre est particulièrement resté en mémoire ?
En fait, la particularité de ce titre, c'est son histoire. Elle sort juste après les grosses émeutes de 1992 à Los Angeles, déclenchées par l'acquittement des quatre policiers blancs qui ont arrêté et roué de coups l'activiste afro-américain Rodney King sous l'œil de caméras de surveillance. Killing in the Name proteste contre ce racisme aux États-Unis. Dès le premier couplet, on entend 8 fois « Some of those that work crosses are the same that burn crosses », ce qui signifie « Certains des policiers sont eux-mêmes qui brûlent les croix », en référence au Ku Klux Klan. Et la police de Los Angeles était connue pour son racisme.
On l'entend souvent lors des mouvements sociaux.
Oui, comme Rodney King, cette musique devient un symbole de la lutte contre les violences policières et le terme « Killing in the Name » est maintenant un slogan. Plus récemment, c'est dans les mobilisations à la suite du meurtre de George Floyd en juin 2020 qu'on a pu l'entendre. Elle a notamment été reprise par Machine Gun Kelly à ce moment. Plus généralement, Rage Against the Machine s'est fortement mobilisé contre Donald Trump durant son premier mandat présidentiel et sa réélection a probablement eu un effet dans la montée en puissance de ce titre.
Merci Martin, j'espère que cette chronique vous a donné envie d'écouter cette musique. On revient dans quelques instants après une courte pause musicale. Tout de suite, Hand Me Downs de Mac Miller.
Bien joué.
Maybe make believe and full of darkness when I'm stuck between a rock and a hard place. Walking, dropping change inside your empty guitar case. That's charity, I move carelessly, that's why I'm always tripping. I guess it's like electrolytes, you help me go the distance.
not too efficient, but the way it's always been, until the day we have to meet again. Get away when it ain't really safe and it don't seem right. But what's new, you get used to the bullshit, the screws they go missing. It's likely they might be blue.
De retour sur Good Morning Tour, il est 7h48, nous venons d'écouter Hand Me Down de Mac Miller, un artiste incroyable qui nous a quittés trop tôt. C'est maintenant l'heure de partir en reportage, la communauté LGBT+, est-elle en sécurité à Tours ? L'inquiétude est croissante pour de nombreux Tourangeaux et Tourangelles. Certains vont même jusqu'à se demander s'ils ne comptent pas quitter la ville. Léo Segura est allé à leur rencontre.
Rue du Commerce à Tours, ils sont nombreux à faire la queue devant le Manchester. Et pour cause, cette nuit, c'est soirée spéciale drag queen.
C'est parti !
Musique pop, performance et rencontre avec le casting de l'émission Drag Race France.
Faites du bruit pour !
Dans la foule, Perrine et Charles ont les yeux fardés de paillettes. Pour les deux étudiants aux Beaux-Arts, leur dernière sortie du genre remonte à bien trop loin.
Il y en a, on saute un peu sur l'occasion, mais ça arrive pas très souvent.
Enfin, il n'y a aucun bar ou lieu où on peut s'exprimer vraiment tel qu'on est et tout, enfin, dans cette ville. Et comme il y a un événement ce soir dédié à ça, bah, c'est trop bien. Genre, enfin... Mais j'avoue que quand, par exemple, je vais faire des courses ou quand je vais au centre-ville ou quoi, je peux pas mettre de jupe ou je peux pas me make-up parce que justement j'ai peur des regards, j'ai peur des... Je me sens pas hyper safe à Tours.
Une crainte partagée par Clément, d'autant plus qu'il a lui-même été agressé à quelques mètres d'ici.
J'avais un peu bu, et puis j'étais avec des potes et puis on s'est vite fait séparés à un moment dans la foule parce qu'il y avait extrêmement de monde. Et je me suis pris une baffe, mais totalement gratuitement, alors qu'en fait j'étais juste là, moi je kiffais ma soirée. Dans une ville, où on, dans une moyenne ville, on va dire, pour Tours, ne pas se sentir en sécurité, bah, ça donne pas envie de sortir, ça crée des traumas par la suite.
Une violence qui a aussi touché le centre LGBTI de Touraine il y a un an et demi. Un homme entre dans le local et lâche une bombe artisanale, pas de blessés, mais un traumatisme qui reste.
On a eu nos deux vitrines de changer qui sont maintenant avec du verre anti-intrusion. On a aussi les volets roulants électriques qui ont été mis. Et puis on a les caméras de surveillance également maintenant aussi.
H. Claveau, le co-président de l'association, l'assure, les menaces qui planent sur la communauté queer prennent une nouvelle ampleur.
Surtout, on se sent de moins en moins en sécurité en tant que personne queer. Souvent, des personnes viennent nous voir pour nous disent qu'elles se sentaient plus en sécurité dans les rues de la ville. De toute façon, on assiste en France, comme partout ailleurs en Europe, à une montée des extrémistes et des discours radicaux. Et les minorités en font les frais en premier, et notamment les minorités LGBTI+. On a interpellé la municipalité là-dessus, qui essaye d'améliorer les choses dans ce sens, Mais c'est vrai que c'est un travail collectif, en fait.
Justement, à la mairie, le conseiller délégué à la lutte contre les discriminations, Pierre-Alexandre Moreau, a bien pris conscience du problème.
Pour avoir été moi-même victime, Place Plumeau, ouais, je vois bien à quel point c'est des lieux insécurisants.
Mais la municipalité manque de levier, assure-t-il.
Et les actions qu'on peut faire sont extrêmement limitées, quoi. À part des soutiens financiers du centre LGBTI, à part dénoncer, à part former la police municipale, pour que déjà ils comprennent, en fait, un peu les enjeux et les problématiques. Il y a beaucoup de craintes, déjà, juste d'aller porter plainte. Peu de gens le font parce qu'ils ont peur que non seulement ça n'aide pas, mais qu'au contraire, les personnes qui vont prendre en charge la plainte soient pas du tout aidantes, quoi. Donc là, on essaie de travailler sur ce levier-là. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas être partout, quoi. Et qu'il y a des problèmes dans pas mal d'endroits. Mais ouais, le cœur de ville, on essaie que ce soit un sujet important.
En France, les agressions LGBT-phobes ont bondi de 13% entre 2022 et 2023, selon le ministère de l'Intérieur.
Un reportage signé Léo Segura. Il est maintenant l'heure de la chronique sport présentée par Antoine Carré. Antoine, tu reviens ce matin sur l'événement sportif de la semaine, la victoire spectaculaire du skipper Charlie Dalin au Vendée Globe.
Je suis l'homme le plus heureux du monde. Voici ce qu'a déclaré Charlie Dalin mardi matin lors de son arrivée au large des Sables d'Olonne pour cette 10e édition du Vendée Globe. Des larmes et des sourires pour le skipper français, heureux de retrouver la terre ferme après 64 jours et 19 heures passées en mer, un record dans l'histoire de cette course.
En quoi cette performance est aussi historique que inattendue ?
Eh bien pour plusieurs raisons, mon cher Julian. Tout d'abord, Charlie Dalin a tout simplement explosé le chronomètre du précédent champion, Armel Lecléache, qui avait passé un peu plus de 74 jours sur son Imoca en 2017, soit 9 journées de plus que le skipper de l'équipe Massif. Autre raison, le duel haletant qu'il s'est livré pendant 2 mois avec Johan Richomme. Le navigateur d'Arkea a longtemps partagé la tête de la course aux côtés du futur champion, mais a fini par craquer quelques jours avant l'arrivée au Sable d'Olonne. Une deuxième place frustrante qui a quand même été célébrée par les milliers de personnes présentes dans le chenal.
La victoire de Charlie Dalin est aussi une revanche personnelle.
Oui, Julian, on peut parler de revanche pour le skipper du Havre, qui a connu une édition 2020-2021 pour le moins compliquée. Lors du dernier Vendée Globe, le Français a franchi la ligne d'arrivée en première position, mais s'est vu rétrograder à la seconde place. Pour cause, la bonification accordée à Yannick Bestaven, qui avait secouru un autre skipper lors de la course, occasionnant une perte de temps conséquente pour le champion sortant. En s'imposant ce mardi, Charlie Dalin chasse ainsi ses fantômes d'il y a 4 ans et s'impose pour la première fois dans cette compétition. Si des gens se demandent encore où est Charlie, la réponse ne fait plus de doute, il est entré dans l'histoire de la plus belle course de voile en solitaire.
Charlie Dalin est donc le vainqueur de cette 10e édition du Vendée Globe. Pour rappel, seul le Français Michel Desjoyeaux a remporté cette course à 2 reprises. Il est 7h54, l'heure du billet d'humeur d'Alia Trabelsi, qui, il me semble, est arrivée dans les locaux de Good Morning Tour plutôt irritée. Alia, pouvez-vous nous en dire plus ?
Tout à fait, Julienne. Pour tout vous dire, aujourd'hui, j'avais prévu une chronique relativement légère. De quoi finir notre superbe émission sur une note positive. Peut-être même ponctuée de boutades de part et d'autre. Mais cette semaine, je ne peux ressentir que colère et mépris. En effet, pour les retardataires, Jean-Marine Le Pen s'est fait enterrer samedi dernier. À son sujet, eh bien aucun commentaire. Je ne donnerai pas de minutes ou même 2 secondes à un tortionnaire. Ce n'est ni ma ligne de conduite, ni celle de Radio Campus d'ailleurs. Par contre, l'actualité, elle, a rapidement rattrapé les horreurs de l'histoire. Puisque lundi, Ivan Trippenbach, grand reporter chez Le Monde, subit une vague de cyberharcèlement. Pour cause, la journaliste aurait assisté aux funérailles du fondateur du FN après que la responsable du service de presse du RN ait invité un petit groupe de journalistes présents devant l'église à y entrer. En somme, Trippenbach n'a fait qu'exercer son travail, une version soutenue par la rédaction du Monde, mais démentie par le Rassemblement National, affirmant qu'il s'agissait d'une intrusion de la journaliste.
Mais alors, dans une affaire si pointilleuse, comment est-il possible de discerner qui a raison, qui a tort, Alia ?
À vrai dire, Julianne, je suppose qu'on ne saura jamais vraiment la vérité. Mais au final, là n'est pas le sujet. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est l'opportunité qu'ont saisi certains élus pour taper sur le premier journaliste venu et ainsi créer une véritable vague de harcèlement. Je fais notamment référence au député UDR Alexandre Allégret-Pilot qui ne s'est pas privé de menacer la journaliste sur X suite à sa supposée intrusion. Soutien à Ivan Trippenbach, je plaisante, lâchez-vous, qui vit par l'épée périra par l'épée. Fin de citation.
Ou encore des journalistes comme Jordan Florentin aux couleurs de frontières, média, attention, gros suspense, d'extrême droite. Eh bien oui, d'après le reporter aux tendances identitaires, en prétexte de cette intrusion, il faut vraiment être de gauche pour n'avoir aucune honte. Fin de citation. Et ces intimidations, Bell donne le mauvais exemple. On savait déjà que les réseaux sociaux et la couverture numérique donnaient certaines latitudes, mais ces interventions et appels directs au cyberharcèlement, elles, créent des monstres. Et pas besoin de chercher loin. Les insultes sont multiples, les commentaires tous plus agressifs les uns que les autres, gauchias, connasses, vendues, et ça des milliers de fois. En plus, cette attaque est loin d'être isolée. Nassira El-Mouadem, journaliste d'Arrêt sur Image, en avait été victime en mai dernier. Un acharnement et des menaces, là aussi embrayées par un élu de la République, Julien Odoul. Une figure de confiance pour des électeurs, encore, toujours d'extrême droite, au passage.
Mais comment protéger nos consoeurs et confrères si ces cas sont si nombreux ?
Comment les protéger ? Comment nous protéger ? Ça, je ne le sais pas. Je suppose que les élus concernés devraient justement bosser un peu plus sur le sujet. Ils semblent avoir du temps à investir. La seule chose, moi, journaliste, dont j'ai la certitude, c'est que ces comportements sont intolérables et qu'il est grand temps de protéger notre profession pour éviter à nouveau des épisodes de ce genre. Mais aussi développer d'autant plus l'éducation aux médias. Car oui, un journaliste qui fait bien son travail, c'est un journaliste qui dérange l'extrême droite.
Merci beaucoup Alia. Une conclusion que nous, futurs professionnels, saurons retenir, j'en suis sûr. Le temps passe vite sur Good Morning Tour, il est déjà 7h58. C'est l'heure de se quitter pour aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à rendre cette émission merveilleuse. Mathis Modet, Angelina Richard qui s'est occupée de la technique en plus de sa chronique. Elle a été bien aidée par Gabriel Ziar au passage. On remercie également Clara Baudard, Jules Frécon, Martin Kretovitch, Léo Segura parti à la guerre, Antoine Carré et pour finir Alia Trabelsi. On se retrouve vendredi prochain, même heure, pour une nouvelle matinale, toujours sur 99.5 FM. Prenez soin de vous, bonne journée à toutes et à tous. Yeah.